Chapitre 2. Madame Odel et sa fille achevaient de déjeuner silencieusement. Elles avaient mal dormi toutes les deux. Monique avait le front serré, la tête lasse et lourde. Pourtant, elle se préparait à combattre, elle s'était jurée qu'elle ferait face à tout le clan s'il le fallait. Madame Odel fixait de temps en temps sur sa fille un regard scrutateur, presque inquiet. La victoire de la veille ne la satisfaisait qu'à moitié. « Mange donc, Monique !» dit-elle avec quelque impatience, en voyant la jeune fille rouler d'un air distrait sous son doigt une boulette de mie de pain. « Tu sais que je tiens à ce que tu fasses un bon déjeuner. L'hygiène l'exige. »« Comme tu ressembles à ton père !» poursuivit Madame Odel en levant les yeux vers un portrait placé au-dessus de son bureau dans un angle obscur. « Tu as son front, sa bouche et son nez par malheur. » Il est vrai que les particularités physiques n'importent guère, mais je ne puis m'empêcher de croire que si tu avais le profil régulier de ma famille, tu aurais l'esprit net et positif qui la distingue, moins de fantaisie, moins d'échappée, une disposition plus marquée à faire du devoir la règle de ta vie. Madame Odel avait le nez fort beau, le nez d'une Romaine de la bonne époque. Elle n'en avait jamais tiré vanité, étant au-dessus de ses faiblesses, mais elle voyait une sorte de symbole dans ce nez de famille que les générations se transmettaient avec leurs vertus intactes et leur fortune augmentée. Madame Odel était une du Courtil. L'honneur sait ce qu'il y a dans ce nom seul. Elle n'avait pas dérogé en épousant un Odel dont le blason figure dans l'armorial d'une des plus vieilles bourgeoisies qui soit au monde. Mais elle s'était greffée sur une souche bien différente. Elle ne le regrettait pas, elle avait tout pardonné à la mémoire de son mari. Jour après jour encore, elle lui pardonnait sa fille qui n'avait pas le nez des du Courtil. « Cependant, reprit-elle, si l'éducation ne peut rien sur le profil, elle peut tout sur le caractère et... » Un coup de sonnette vif et carillonnant l'interrompit. « Tiens, mademoiselle des anges, ou je me trompe fort, que peut-elle nous vouloir de si bonheur ?» « Encore à table !» fit Mademoiselle des Anges en pénétrant dans la salle à manger comme une rafale de bises sèches et piquantes. « J'ai déjeuné depuis longtemps, moi. Il vaut la peine de se lever de bonne heure pour recevoir des missives comme celle-ci, vraiment ?» Elle agitait une enveloppe grise sur laquelle Monique ne jeta qu'un regard. « Pareil à la mienne !» se dit-elle, et le cœur lui battit très fort. « Une lettre anonyme ! Je suis dans une indignation !» J'ai monté d'un saut pour vous la lire. Il me faut quelqu'un qui s'indigne avec moi et je sais que vous n'en direz rien en ville. Tenez, voici l'épître. En vers, s'il vous plaît, et quel vers ! Ce serait drôle si ce n'était abominable. Honorable demoiselle, angélique et belle, gardez-vous de vous fier à ceux qui reviennent d'Arabie ou de Bessarabie. Tournez le dos à leurs récits trompeurs. Souvent, le serpent se cache au milieu des fleurs. « Maintenant, je vous le demande, qui est-ce qui revient d'Arabie ?» Mademoiselle des Anges regardait Monique. La jeune fille, incapable de feindre l'ignorance ou même l'étonnement, sentit une rougeur de flamme monter à ses joues, envahir son cou et son front. « Monique, » fit Mademoiselle des Anges avec une certaine aspérité dans la voix, « tu en sais plus long que nous, tu n'as pas l'air assez surprise. Allons, parle, c'est là tout votre courrier ?» dit-elle en soulevant le journal encore dans sa bande, posé sur la table. « Il n'y avait rien d'autre ce matin, du moins à ma connaissance, » répondit Madame Odel en se tournant vers sa fille d'un air interrogateur. « Il n'y avait rien d'autre, » répéta Monique. Mais ce mensonge tacite lui fit horreur. « Hier soir, » dit-elle, « quelqu'un m'a glissé dans la main une enveloppe semblable à celle-ci. J'y ai trouvé également des vers. » Elle s'interrompit, incapable de poursuivre. La honte et l'indignation lui coupaient la voix. « Tu es, du moins je l'imagine, parfaitement irresponsable des lettres qui te sont adressées, » dit sa mère. « Cependant, je m'étonne que tu n'aies pas jugé à propos de me communiquer cet incident. » Les jeunes filles ont leur répugnance. Celle-ci me semble assez naturelle, » fit Mademoiselle des Anges, prise de compassion pour la détresse évidente de Monique. « Mon enfant, va nous chercher cette lettre, » reprit Madame Odel. « Il pourra être utile de la comparer à celle de Mademoiselle des Anges. » Monique se leva et sortit. Je voudrais bien savoir quelle humiliation on m'infligera encore, se disait-elle, pâle jusqu'aux lèvres, les yeux remplis de larmes. J'ai 20 ans, il me semble. Il est certaines choses dont je ne dois compte à personne. Mais je vais leur parler net, puisqu'on m'y force. Elles entendront une déclaration de principe qui les étonnera un peu, j'imagine. » Quand elle rentra dans la chambre à manger, au bout de quelques minutes, toute sa mince et gracieuse petite personne avait pris une résolution d'allure que Mademoiselle Desanges remarqua aussitôt. Monique posa sur la table le papier jaune plié en quatre, exactement pareil à celui que Madame Odel examinait en ce moment. Puis elle alla s'asseoir près de la fenêtre du balcon, le dos tourné au jour, juste au-dessous du portrait de son père, comme pour se mettre sous sa protection. Madame Odel raffermit sur son nez de famille le lorgnon que suspendait à son cou une fine chaîne d'or, ouvrit le papier et commença à haute voix la lecture de ce document, avec des intonations outragées qui mettaient Monique au supplice. « En toute chose, dit Madame Odel après avoir replié la lettre avec méthode, en toute chose, il faut considérer le but. Je me demande quel a pu être le but de la personne qui a écrit ces lignes. » Quel intérêt avait-elle à te les adresser, ma fille ? Je n'en sais pas plus que toi là-dessus, maman. Les questions qu'on pourra me faire à ce sujet me seront aussi désagréables que la lettre elle-même. Plus que désagréables, injurieuses. Enfin, elle montre de la tête et du courage, cette petite, pensa Mademoiselle Desanges. Je la considérais comme un oison. Madame Odel comparait les deux lettres. « C'est Monsieur Rémy d'Orbe qu'on attaque, dit-elle enfin. Cela n'est pas douteux. Les initiales, la mention des voyages, tout concorde. N'est-ce pas votre avis, Mademoiselle Desanges ?»« Eh, mon Dieu !» fit brusquement celle-ci. « Je n'ai pas eu besoin de lorgnon pour faire cette découverte. Ce qui me passe, c'est que ce charmant garçon, car c'est un charmant garçon, ait des ennemis. Pour moi, sans avoir eu encore l'occasion de le confesser, je suis sûre qu'il n'a jamais commis d'action inavouable, pas plus en Arabie qu'en Bessarabie ou ailleurs. Et je le montrerai bien. Venez me voir la semaine prochaine à Chanvert. Monsieur Rémy d'Orbe y sera. Je l'afficherai, s'il le faut, j'inviterai toute la ville. Après cela, si sa réputation n'est pas invulnérable de la tête aux pieds, je donne ma démission. « Ah, c'est bien cela !» s'écria Monique avec chaleur. Un léger coup frappé à la porte les interrompit. « Pour mademoiselle !» dit la voix de Marthe. Sa main tendit à Madame Odel un bouquet splendide et un petit paquet ficelé. « Monsieur Colombe désire que les sentiers du devoir te paraissent fleuris, » dit Madame Odel en passant à sa fille la carte qui accompagnait l'envoi. Monique se leva toute droite. « C'est de lui, ce bouquet ?»« Marthe, Marthe » cria-t-elle en courant à la porte. « Le commissionnaire est-il encore là ?»« Non, il a dit qu'il n'y avait pas de réponse. » Monique revint lentement à sa place et reprit la carte qu'elle avait jetée sans la lire. « Jeu en colombe, à Mademoiselle Odel, l'éducation progressive et ses quelques fleurs pour en parfumer la lecture. » Monique poussa un long soupir et regarda autour d'elle comme un combattant solitaire qui compte ses assaillants. Elle se rapprocha du portrait, tremblant d'une manière visible, mais ses yeux brillants de courage. Depuis la veille, un sentiment nouveau, mystérieux, l'agitait. Accepter même une fleur de M. Colombe lui paraissait une trahison envers ce quelque chose de voilé qui montait, montait dans son cœur. « Je vais renvoyer tout cela !» dit-elle avec un geste qui semblait balayer ces roses magnifiques dont les splendeurs éclataient sous la dentelle des fougères rares. « L'audace de M. Colombe est inqualifiable. Je lui ai dit catégoriquement qu'il m'était impossible d'accepter sa proposition. « Quand cela ?» dit sa mère avec cette sérénité qui était son triomphe dans les grandes crises. « Hier, comme il sortait du salon. « Ah ! Sottise, chanson, caprice !» fit Mademoiselle Desanges. « Je connais cela. « Laissez-moi tout vous dire !» reprit Monique dont la voix vibrait étrangement. « Vous me poussez à bout. Qu'est-ce que cela me ferait, à moi, d'être la marraine de ces bébés? Mais vous savez bien pourquoi je refuse. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, entendez-vous, devenir Madame Colombe, puisqu'il faut en finir avec les réticences. » Dans le silence qui se fit après cela, on entendit les moineaux réclamer leur déjeuner sur le balcon. Mademoiselle des Anges regardait Monique, non sans un secret sentiment d'approbation. Il lui plaisait qu'on montrât du caractère, même contre elle. La lutte n'en aurait que plus d'intérêt. Mais Madame Odèle désirait éviter un conflit. Elle estimait que ces déclarations violentes, que l'on fait sous une influence passagère, sont des engagements d'amour propre par lesquels on se sent lié plus tard, quand on voudrait bien revenir en arrière. On s'entête parce qu'on a dit « jamais ». L'essentiel en cette minute était d'empêcher Monique de dire « jamais ». « Puisque tu parles net, je ferai de même », reprit-elle froidement. « Monsieur Colombe, t'a-t-il demandé en mariage ?» Monique rougit. « S'il l'avait fait, poursuivit Madame Odèle, j'en serais informée sans doute, bien que tu m'accordes une confiance très limitée à ce que j'ai pu voir. Mais je serais étonnée que ses intentions fussent toujours les mêmes. Ton attitude vis-à-vis de lui était celle de la rébellion, il sera peu encouragé à poursuivre. » Aussi, ma chère, ne te donne pas le ridicule de refuser à grand bruit une offre qui ne te sera peut-être jamais faite. C'est là tout ce que je désire, maman. Madame Odèle en fut restée là, mais Mademoiselle des Anges voulait une lutte corps à corps. Et quel mari vous faut-il, jeune demoiselle, si on peut le demander? Mon choix n'est pas encore fait, répondit Monique avec calme. Elle prit son petit arrosoir, dans lequel elle versa le contenu d'une carafe, puis s'approcha de la jardinière et examina avec sollicitude un joli palmier nain dont les feuilles inférieures jaunissaient un peu. Mais cette tranquillité n'était qu'apparente. Monique sentait tous ses nerfs se tendre et vibrer douloureusement. « Ton choix, en voilà bien d'une autre. Les jeunes filles ne choisissent pas, elles acceptent. » « D'ailleurs, tu dois savoir qu'on ne se marie pas pour son agrément personnel quand on a la notion du devoir. On considère en premier lieu le bien général. »« La raison d'état, je ne suis pas une princesse. »« Tu es une Odèle du Courtil de l'Honneuve, cela revient au même, et tu épouseras Monsieur Colombe s'il te le demande, ou tu diras pourquoi. »« Je dirai pourquoi, certainement, je le lui dirai à lui-même, mais j'aurais voulu lui épargner ce désagrément. » « Brisons-la, » fit Madame Odèle en intervenant. « Vous voyez que Monique s'enferme, chère mademoiselle. Il est inutile de discuter davantage. » Elle prit sur la cheminée une belle potiche d'émail cloisonnée aux riches arabesques et y mit le bouquet de roses. Puis elle ouvrit son secrétaire, plaça sur l'un des rayons le livre envoyé par Monsieur Colombe et retira la clé. Ce procédé parut brutal à Monique, Mademoiselle des Anges elle-même le goûta peu. « La précaution est superflue, » fit Monique absolument révoltée. « Je n'essaierai pas de renvoyer ces présents d'où ils viennent. Seulement, j'informerai M. Colombe qu'ils sont acceptés par ma mère et non par moi. » C'était la première fois de sa vie qu'elle manquait au respect filial. Effrayée, elle s'interrompit, les derniers mots étaient tombés dans un terrible silence. Sans ajouter une parole, Monique voulut s'enfuir, mais Mademoiselle des Anges se dirigeait vers la porte, suivie de Madame Odèle. Elles sortirent toutes deux, Monique resta seule, comme une prisonnière qu'on abandonne à la méditation de ses forfaits.